Bonjour à tous, c'est Seb pour votre émission Ça roule, l'émission de l'automobile, mais pas que. Cette semaine, au sommaire de Ça roule, nous allons être en immersion dans les coulisses de la compétition avec une équipe française, Périgourdine, basée à Boulazac, en pleine préparation pour la saison 2026. Entre le championnat de France, FFSA GT, avec une Alpine A110 GT4, un programme en Michelin Le Mans Cup avec une Aston Martin Vantage GT3 Evo, s'il vous plaît, et peut-être même une aventure en Asian Le Mans Series et en European Le Mans Series. Vous l'avez compris, les projets ne manquent pas pour l'écurie Code Racing Development. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans les studios de Liberté FM le fondateur du team Code Racing Development, Pierre Combi, qui va donc nous parler de la préparation de la saison, des ambitions de l'équipe et les nouveautés au sein de la structure. Pierre Combi est donc avec nous et nous en sommes très heureux de le recevoir. Bonjour Pierre et merci d'avoir accepté de venir répondre à nos questions dans Ça roule. Car le team est en pleine préparation du lever de rideau de la saison 2026 et nous savons que c'est pas simple pour toi et pour l'équipe, donc un grand merci tout d'abord. Pour commencer Pierre, peux-tu donc nous présenter Code Racing Development et son positionnement dans le sport automobile aujourd'hui ?
Bonjour Seb, effectivement on est en plein rush parce que la saison commence réellement en Coupe de Pâques à Nogaro dans 3 semaines, donc on est dans les pleins préparatifs pour que tout soit prêt en temps et en heure et dans les tests. On teste quasi toutes les semaines en ce moment, donc pas mal de déplacements.
Comment est né le projet Code Racing Development et quelle est la philosophie de cette équipe ?
Alors le projet Code Racing Development est né dans mon retour en Dordogne à la fin de mon parcours dans diverses équipes constructeurs quand j'ai voulu revenir à Périgueux. J'ai d'abord créé ma première structure qui est Pitot Engineering, qui est une activité un peu plus conventionnelle pour monsieur tout le monde et les particuliers. Et voilà, le monde de la course m'a très vite manqué, bien que je faisais de la presta pour encore les constructeurs pour lesquels j'avais travaillé. Mais voilà, j'ai voulu recréer Code à l'hiver 2016-2017. On est parti à reconstruire des autos de rallye. On a commencé par les plus petites catégories et on est revenu aussi en circuit avec au début des Golf TCR. Et on a gagné les championnats pour aller de plus en plus sur des championnats supérieurs jusqu'à ce qu'on ait un vrai contact avec la marque Alpine et qu'on puisse gagner le seul rallye d'ailleurs qui a été gagné au scratch avec une A110 RGT en championnat de France. Donc ça a déclenché une belle suite avec le constructeur Alpine et après on a forcément eu des autos de circuit et on est revenu au niveau auquel nous sommes aujourd'hui.
Tu as toujours baigné dans l'automobile puisque t'es diplômé, je l'ai appris, de l'école de la performance, une école française spécialisée dans la formation à des carrières dans l'industrie du sport automobile.
Oui, c'est ça, j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où j'ai d'abord fait des études de mécanicien de compétition et j'ai repris après mes études pour être ingénieur performance. Donc j'ai fait ça en parallèle de mon activité d'agent sport auto et pour finir, ouais. Donc on a été diplômé de cette école-là, qui est une belle école française, qui forme et des mécaniciens et des ingénieurs. Et on a la chance d'avoir ça dans le Gers.
Ah ouais, c'est très bien. Ouais, c'est exceptionnel. Et en plus, tu as quand même goûté à l'excellence, puisque donc tu as participé à pas moins de 7 saisons avec une équipe fort connue dans le milieu, qui est Exis Racing Aston Martin.
Oui.
Donc c'est pas rien. Tu as goûté aux victoires.
Non, avec Exis, ça a été une aventure folle. On était l'équipe la plus jeune pendant des années. On faisait le tour du monde tous les ans. Pour moi, mon équipe de cœur, parce que j'ai vraiment fait mes armes et j'ai travaillé après dans d'autres équipes. Mais Exis, c'était vraiment une histoire incroyable où on a tout gagné. On était des gamins. On était champion du monde. On était champion d'Europe. On a fait GT3, GT1, GT2. Enfin, c'était extraordinaire avec une autre époque avant crise économique, on va dire. Où les budgets étaient fous et nos parcours étaient dingues. Quoi. Voilà. Ouais. On vivait que pour ça et on avait un niveau de performance qui était extraordinaire.
Ouais, tout à fait. Ouais, mais tu vois, même s'il y a de la nostalgie, et ce qui est normal, comme je dis toujours, l'important, c'est que tu l'as quand même vécu.
Oui, non, mais
parce que des fois, on a de la nostalgie, mais on n'a pas vécu les choses.
Non, c'était...
Tu l'as vécu.
On se voit encore avec tous les anciens et on est tous encore dans le métier, dans le milieu, donc on se voit encore régulièrement. Et non, c'était une époque folle et vraiment, on a eu la chance de pouvoir le vivre et le vivre à 100%.
Ouais, bien sûr. Et puis, ça t'a aidé pour la suite.
Clairement, aujourd'hui, Exis est encore sponsor de l'équipe Code aujourd'hui.
Il y a des liens.
Il y a des liens très forts.
Très, très forts. Aujourd'hui, quelle est la taille de la structure de Code Racing Development sur le point de vue de l'équipe technique, les ingénieurs, les mécaniciens?
Alors écoute, on a des gens à temps plein, hein. Donc on est 10 personnes à temps plein et on triple les effectifs sur les meetings en fonction des championnats. On a des ingénieurs à temps plein, on a deux ingénieurs à temps plein, on a des mécaniciens, des logisticiens, des gens qui s'occupent de la communication, on a un comptable, on a une vraie entreprise.
Une vraie entreprise.
Dans un bâtiment de 2500 m². On a 3 SMI pour la logistique, on a des porteurs, on a des fourgons, on a des remorques. Voilà, il faut savoir que le plus gros de l'activité à gérer, c'est la partie logistique. Des fois, on doit être sur deux ou trois événements en même temps, le même week-end, parce qu'on fait plusieurs championnats. Donc, ça demande un coordinateur à la tête de tout ça qui peut tout gérer.
Ouais. Et la compétition automobile ne déroge pas à la règle de la logistique, puisque dans toutes les entreprises, le plus gros poste... L'importance, c'est la logistique.
Oui, voilà. Puis on fait des courses en Europe, on fait des courses outre-mer. Donc, ouais. Des fois, il y a du fret, des fois, il y a du fret maritime, des fois, il y a du fret aérien. Voilà,
ouais, tout à fait.
Et tout prend du temps parce qu'il y a des process. Voilà.
Bien sûr, bien sûr. Alors, on va rentrer dans le cœur du sujet, donc la saison 2026. On va commencer donc par la saison FFSA en GT4.
Oui.
Alors, en 2026, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, nous retrouverons donc ces Alpines A110 GT4, fabuleuses, en championnat de France FFSA GT. L'Alpine A110 GT4 est réputée pour son équilibre. C'est vrai que c'est une voiture qui est très bien équilibrée, très bien étudiée. Quels sont ses principaux atouts en championnat, cette voiture?
Alors, il faut savoir que l'Alpine GT4, par rapport aux autres constructeurs, est la voiture la plus éloignée de la voiture de route. C'est la voiture de série, c'est la voiture la plus radicale en GT4. Celle qui ressemble le plus à une vraie voiture de course, c'est-à-dire qu'on a une boîte de vitesse différente de celle de la série, on a un châssis qui est très radicalisé, on a un faisceau qui n'a rien à voir avec le faisceau de la série. Voilà, c'est une voiture qui est très bonne, celle de la série, par rapport à une Porsche Cayman ou une BMW M4 qui sont quand même proches de ce que l'on a sur la route, avec un arceau en plus. Donc la GT4 est vraiment plus typé prototype qu'une autre de la série. On a un vrai facteur poids qui est intéressant sur l'Alpine. C'est une voiture qui fait 1060 kg, qui nous aide énormément sur la dégradation du pneu. Donc le vrai point fort de la voiture, c'est la dégrade des pneus sur une course d'une heure. Donc souvent elle est bien plus efficace en fin de course que ses concurrentes. Elle n'a pas le plus gros moteur, on a un 4 cylindres turbo, hein, de 400 chevaux avant en BOP. Donc BOP, c'est BOP, Balance of Performance, qui permet d'équilibrer la performance des voitures entre les constructeurs. Et on se bat avec des V8, des V8 biturbo chez Mercedes, avec des V10, voilà. Donc ils équilibrent les performances des autos, que ce soit en moteur, en hauteur de caisse, en aéro, pour que les courses soient belles et que les voitures se battent entre elles. Donc voilà, il y a un vrai facteur poids qui est intéressant sur l'Alpine, le gabarit de la voiture, qui peut être aussi un désavantage au combat face au contact avec d'autres voitures. Donc c'est la plus petite des autos. Mais voilà, écoute, elle sort assez son épingle du jeu, elle est assez adaptée au circuit français. C'est un peu plus compliqué en Europe sur les grands circuits, mais pour les circuits français, je pense que c'est le produit qu'il faut avoir aujourd'hui.
Ouais. Ouais, c'est vrai que dès que c'est un peu sinueux, l'Alpine sort son épingle du jeu.
Oui, voilà, elle est bien plus agile, et le fait du poids et de l'empattement qui est assez étroit, c'est un vrai plus pour cette voiture.
Donc ce que disait Colin Chapman, c'est encore d'actualité.
Ouais, c'est encore d'actualité.
The light
ouais.
is right.
Ouais, c'est ça.
Ok, et bah écoute, formidable, formidable. Vous aurez toujours comme pilote au sein du team Gaspard Simon et Pascal Hutto cette année?
Alors, on aura toujours Pascal Hutto. Gaspard, malheureusement, on a gagné le trophée junior avec lui l'année dernière.
Tout à fait.
Que du coup, je manage aujourd'hui.
D'ailleurs, un grand bravo parce que vous êtes vice-champion,
ouais, on est
sur, l'année,
champion
sur l'année 2025, c'est fabuleux.
À un point, on n'a encore pas digéré le truc, mais,
ouais, ouais.
Mais voilà, on est vice-champion à un point et Gaspard est champion junior, donc c'est chouette, ça lui a permis d'obtenir une bourse de 150 000 euros pour aller en GT3 dans un championnat SRO qui est le même promoteur que le GT4. Malheureusement, nous, on n'engage pas de voiture en SRO GT3 puisqu'on est engagé en ACO, qu'un autre promoteur, qui est le promoteur des 24 heures du Mans. Donc voilà, je ne pouvais malheureusement pas le garder dans le Giron Code pour lui proposer un volant en GT3 et l'accompagner avec cette prime. Voilà, on a un deal de management ensemble, donc je vais m'occuper un petit peu de Gaspard, et du coup voilà, on l'a placé dans une équipe qui s'appelle Walker North Motorsport, qui est aussi une équipe Aston Martin, donc il va faire le sprint en championnat du monde GT3 et il va faire les 24 heures de Spa. Donc c'est
un beau programme.
On a un regard sur lui, j'assiste à toutes les séances d'essai et ainsi de suite. Donc on va l'accompagner au mieux que nous puissions le faire. Mais c'est très chouette pour lui. C'est très très chouette pour lui.
Oui, parce que vraisemblablement, il comptait vraiment rester dans l'équipe.
Oui, oui, il y a une vraie fibre qui a pris entre nous. Et c'est un mec comme on les aime et il ne vous laisse pas indifférent quand il passe dans une équipe. Ouais.
Quels seront les objectifs du team cette saison, bien sûr, pour ce championnat, au niveau podium, victoire, championnat? Alors je pense, bien sûr, on vise le...
Bien sûr, écoute, on a les équipages vont être annoncés dans les prochains jours pour la saison FFSA GT4. Concrètement, on vise le titre équipe et le titre pilote. Toujours le junior, bien sûr, parce qu'on aura deux juniors, un dans chaque voiture. Voilà, donc clairement, on a l'amertume de l'année dernière de la place de vice. Donc on va essayer de tout faire pour obtenir le titre cette année et gagner tout ce qu'on peut.
Ouais. Et gagner tout ce que vous pouvez, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Quel circuit, d'ailleurs, te semble plus favorable à l'Alpine cette année?
Alors l'Alpine est toujours très bien à Spa. On était bien l'année dernière à Manicourt avec les nouveaux pneus Pirelli. On pensait pas l'être. On a beaucoup bossé là-bas sur des essais. Écoute, globalement, sur l'ensemble du calendrier, on devrait pas avoir de circuit où on est craintif de la perfo. Ouais.
Vous êtes un peu désavantagé.
Voilà, où on est un peu désavantagé. Voilà, on verra la balance de performance à chaque meeting, mais globalement on devrait être dans le match. Ouais.
Alors, bien sûr, il y a d'autres rendez-vous pour le Code Racing Development. Il y a également le Michelin Le Mans Series.
Oui,
pas rien. Donc vous allez être engagé avec là cette fois-ci une Aston Martin Vintage GT3 Evo. C'est un programme très ambitieux. Comment c'est monté d'ailleurs ce projet? Parce que c'est du lourd, comme on dit.
Bah écoute, on voulait continuer les échelons après le GT4. Moi je voulais revenir au niveau auquel j'ai pu travailler auparavant, qui était le GT1, mais le GT1 n'existe plus aujourd'hui. Et l'équivalent du GT1 aujourd'hui, c'est le nouveau GT3. Donc on voulait absolument mettre un pied en GT3, je voulais absolument avoir un pied en ACO pour un jour aligner une voiture 24 heures du Mans avec mon équipe. Sauf qu'en ACO, pour pouvoir aligner une voiture au 24, t'es obligé de passer par la petite porte. La première porte avec une GT3, c'est la Michelin Le Mans Cup. On a discuté avec plusieurs constructeurs, sachant qu'Alpine aujourd'hui n'a pas de GT3 au catalogue, parce que voilà, ça n'existe pas. La 110, malheureusement, du fait de sa petite taille, on ne peut pas mettre un moteur plus gros et ainsi de suite. Donc on a discuté avec plusieurs constructeurs. Mon passé avec Aston Martin a fait que ça s'est fait assez naturellement. On avait un délai sur la voiture qui était raisonnable et un niveau de perfo qui nous intéressait. Donc voilà, il y a encore des gens en place de mon époque. On a pu acquérir une première Aston. Et voilà, aujourd'hui, on est là. Et on a fait une belle première saison l'année dernière avec un peu de malchance et un peu d'apprentissage, donc écoute, on va essayer. On a travaillé dur cet hiver, on verra cette année.
Bah, vous êtes quand même rentré plusieurs fois dans les points.
Oui, on était en tête du championnat jusqu'à la mi-saison, jusqu'au Mans. Et au Mans, on a eu un gros crash qui nous fait perdre la tête du championnat. Et on a eu une deuxième partie de saison avec un peu plus d'aléas. Donc ça...
Les pilotes seront-ils pour la saison 2026 Rory Van Der Steur et Philippe Sedger?
Non, on change de pilote. On a changé pas mal de techniques aussi. On repart avec de nouvelles bases, nouvel équipage.
Okay.
Le staff technique est le même, mais nouvelle méthodologie. Bosser cet hiver pour...
Ça, c'est le journaliste qui parle. Et est-ce que le team est déjà fait, mais ce n'est pas encore annoncé?
C'est pas encore annoncé. Ouais.
Ok. Entre GT4 et GT3, quelles sont les principales différences en termes de pilotage et d'exploitation technique?
Alors, c'est comme je dis souvent, entre le GT4 et le GT3, c'est pas une marche, c'est un escalier. Que ce soit sur le plan technique, sur le plan financier, sur le plan logistique, sur le plan humain. Pour vous donner un ordre d'idée, une GT4 en course, c'est deux mécaniciens, un ingénieur. Une GT3, c'est quatre mécaniciens, quatre ingénieurs pour une voiture. On a de la télémétrie, donc c'est-à-dire qu'on a les données de la voiture en temps réel tant qu'elle roule, que ce soit les données de pilotage, les données de surveillance moteur, les données aéro, les données de frein. On a toutes les infos en temps réel, une multitude de capteurs, une multitude de paramètres à pouvoir régler. C'est vraiment comparé à un Airbus 430 avec un coucou. Voilà.
Avec un coucou.
Voilà, c'est vraiment complètement différent.
C'est une
vraie voiture d'usine. Voilà. Le GT3 est une vraie voiture d'usine, c'est un vrai prototype. C'est pas une voiture déviée de la série pour faire de la course.
Est-ce que cette participation donc, en GT3 s'inscrit dans une stratégie à plus long terme en endurance ?
Oui, bien sûr. Ouais. On espère gravir les échelons. Et l'idée, c'est Michelin Le Mans Cup, LMS, 24 heures du Mans, forcément. Voilà, on est obligé de passer par là, de gagner le championnat et après d'être sélectionné. Même aujourd'hui, pour entrer en Michelin Cup, c'est une sélection, il y a un comité. On ne peut pas malheureusement arriver et dire « je vais faire Le Mans demain ».
Ouais, ouais, complètement. D'ailleurs, donc, y a peut-être des échéances à moyen ou court terme. Par la suite, avec l'European Le Mans Series, on parle aussi d'une possible participation à cet événement. On en est où sur ce projet aujourd'hui ?
On doit encore cumuler au moins une saison en Michelin Le Mans Cup pour déposer un dossier pour le LMS, pour l'European Le Mans Series.
D'accord.
Voilà, c'est clairement l'objectif 2027.
D'accord.
Aujourd'hui, on espère faire une belle année en Michelin et pouvoir postuler pour une place en LMS.
Ouais, complètement. Quelles seraient donc les conditions pour que ça se concrétise ? C'est-à-dire que vous fassiez, je dirais, de bonnes performances en Michelin Le Mans Series, puis ensuite pouvoir donc aller en européenne ?
Oui.
Ou est-ce que on prend ce qu'il y a et puis l'année prochaine, si c'est l'objectif, on y va.
Non, c'est l'objectif. Donc il faut faire une belle année 2026 dans ce championnat, faire peu d'erreurs, montrer pas de blanche, montrer que l'équipe est fiable et que l'équipe a un niveau de performance important. Voilà, et déposer un dossier et espérer que la commission nous accepte.
Est-ce que courir dans l'écosystème Le Mans est un objectif stratégique pour le team ?
Oui, bien sûr. Aujourd'hui, toute équipe de sport automobile rêve d'avoir une voiture au Mans. Voilà, l'atmosphère du Mans, c'est unique, c'est la plus belle course au monde. On sait qu'au niveau médiatisation, c'est ce qui se fait le mieux aujourd'hui. Et voilà, le Mans, c'est le Mans. Donc, on a tous envie d'y être et tous envie de le vivre. Et quand tu l'as vécu, tu as envie d'y revenir l'année d'après.
Alors, c'est vrai, je peux te le dire, parce que en tant que, pour l'avoir fait déjà deux fois pour Liberté FM, en tant que commentateur, hein, je peux te dire que quand tu es passionné et que tu as la chance de pouvoir faire cela, tu veux y aller tous les ans.
Oui, non, mais clairement, après, même quand tu ne connais rien au sport auto, à l'automobile, une fois que tu as vécu l'atmosphère du vent, tu reviens forcément parce que c'est unique.
C'est unique. C'est unique. C'est quelque chose à vivre une fois au moins.
Oui,
dans
non,
sa vie.
Ça reste la plus belle course au monde et de loin.
On est bien d'accord. Eh bien, écoute, pour te remercier, Pierre, on va se faire une petite page musicale, tiens, avec un titre de ton choix qui est Today de Patrice. Pourquoi ce titre ?
Ouais. Parce que quand je voulais faire du sport auto et que j'étais gamin, je regardais une vidéo en boucle d'Axis avec une Aston Martin DBRS9 GT3 et la musique de ce clip vidéo, c'était Today, et je l'ai regardé des milliers de fois, je pense.
D'accord, voilà. Ok, et ben voilà. Et puis nous, on se retrouvera donc tout de suite après avec Pierre Combi, donc le team manager de Code Racing Development, qui nous parle de la préparation de son équipe dans les différents championnats où l'écurie est engagée pour 2026. À tout de suite.
People say there's a brighter day to come, 'cause I'm a rebel, I kill the devil, yeah. I was so close to resigning, saying fuck the world and just move to an island. All of these people seek the neon enlightenment. We are blinded, world leaders to money minded, but then and your work's my assignment. I come from Iceland, Freetown's a low island of diamonds. We're pushing studs, we got done a girl in the 9 months. The Americans run the world in a time bomb. We ain't got no hoods, we have real slums. We're 10-year-olds, I've been living on 2 hands with 2 stumps and no clothes and no funds. I was deep down in a hole, giving up my life once. So insecure, I couldn't even see the sky once. Yow, so my energy would go out of silence. Are you gonna change the world? Change it with my hands. Yeah, we have to respond before the rivers run dry and the stars far from the sky these days. Love is just a word, but I will try and I will change the world.
people say there's a brighter day to come. Cause I'm a rebel, I killed the devil, yeah. I will change the world today, yeah. I'm gonna pave the way for a brighter day to come. Cause I'm a rebel, I killed the devil, yeah. Betrayed, got played, was scared, was blind, not straight, I trait, gonna stray, was lost, was vain, love fame, but my strength of today lays in yesterday's pain. I stole, was sold, I bold, I chilled, I killed, I fell, I rose, you know, I lost a fight before, but I won't lose the war. I will change the world today. Say there's a brighter day to come. Cause I'm a rebel, I killed the devil. This ain't about the bad ones, it's about the one who no care. Who's too fat to be bothered, too lazy and scared. To whom changing this world would mean send this world to hell. And destroying illusion that served him so well, yeah. Good things never come easy, start with reflection of self. To some this might sound cheesy, but the truth of it tell, yeah. Some are caught up in survival, think it's them that need help, yeah. You never know that material could never be wealth, yeah. I will change the world today. Say there's a brighter day to come. Cause I'm a rebel, I killed the devil. I will change the world today. I'm gonna pave the way for the brighter day to come. Cause I'm a rebel, I killed the devil.
C'était Today Patrice. Tout de suite donc nous retrouvons Pierre Combi, le team manager de Code Racing Développement, donc qui nous parle des préparatifs de l'avant-saison 2026. Donc Pierre, à quoi ressemble l'hiver d'une équipe de course comme la vôtre ?
Alors l'hiver il est toujours trop court, parce que déjà on se repose un peu, hein. On prend un rythme de vie un peu plus conventionnel. Non, l'hiver il est toujours rythmé par bah, écoute, les reconstructions des voitures, hein. Les voitures sont intégralement mises à nu et tout est contrôlé et toutes les pièces qui ont un mileage, un kilométrage à respecter, donc on les remplace, on les refait, on les, voilà. Donc les voitures sont intégralement contrôlées et après bah, il y a tout le matériel, hein. Tout le matériel doit être pareil, remis en état, contrôlé, évoluer, les véhicules, tout.
Ouais.
On a de quoi faire, et puis il y a le mercato pilote, comme une équipe de foot.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Combien d'heures de préparation faut-il pour être prêt pour la première course ?
Alors, c'est compliqué de dire en heures. J'ai envie de te dire qu'il n'y en a jamais assez. C'est-à-dire qu'on n'est jamais prêt. On va pousser jusqu'à la dernière minute de la dernière nuit, de la dernière semaine, du dernier mois pour essayer de tout optimiser à 200% et être prêt. Et tu n'es jamais prêt. Mmh. Tu essaies d'être prêt au mieux. Donc voilà, on essaie d'optimiser tout le temps que nous avons. Et voilà. C'est impossible parce qu'on n'a jamais assez de temps. Tu ne fais jamais ce que tu voudrais, tu veux toujours plus. Donc,
mmh. Les essais hivernaux sont déterminants dans la performance d'une saison.
Oui, bien sûr. Ça nous permet de nous situer assez tôt par rapport à nos références de l'année précédente. On essaie des choses, on essaie aussi les nouveaux pneumatiques de la saison, on essaie des pilotes, on essaie des solutions techniques. On bosse tout le temps sur des circuits qui font partie du championnat. On essaie d'aller chercher un peu le soleil aussi.
Ouais. Alors, vous vous êtes diversifié au sein de Code Racing Development avec, moi j'appelle ça un style de conciergerie, mais vous faites de la restauration de voitures de course anciennes. Il y a pas mal de petites choses qui sont très intéressantes que vous avez instaurées au sein de l'équipe. Si tu peux nous en parler.
Ouais, donc on a créé cet hiver Code Classique qui est destiné à l'activité sur des anciennes voitures de course. Donc on travaille sur des anciennes GT3, anciennes GT1, anciennes GT2, donc qui sont des autos de ma génération du coup que j'ai pu construire et travailler parce qu'on avait de la demande, parce que ces voitures ressortent des musées, ressortent de chez des propriétaires, parce que il y a des nouveaux championnats avec un nouvel essor pour l'historique. Donc voilà, toutes ces autos roulent aujourd'hui dans des nouveaux championnats comme le GT3 Revival, comme le Peter Auto, le Légende of Le Mans. Donc, voilà. Donc on va engager des autos en Légende of Le Mans, donc qui sont les courses voitures du WEC, avec des autos sélectionnées qui sont des anciennes LMP1, LMP2 et GTE. Donc ça va être chouette. Nous, on y va avec une Aston Martin GTE qui a gagné Le Mans en 2018, si je dis pas de bêtises. Voilà, on va faire le GT3 Revival aussi avec plusieurs autos, enfin un peu de Peter Auto. Donc voilà, on remet à jour ces voitures, on les reconstruit, on les remet en route, on chine les pièces, qu'on n'arrive pas à chiner, on refabrique. Donc ça nous ouvre aussi de nouvelles compétences sur de l'usinage, sur des choses comme ça. Donc on remet au goût du jour ces voitures, on les remet en correspondance avec leur future homologation d'époque et on les engage dans ces championnats-là. Donc on fait un peu aussi la conciergerie parce qu'il y en a qui ne roulent pas tout le temps. Donc ouais. On les garde au chaud, on les entretient. Et voilà.
Ouais, vous vous occupez, pareil, de la logistique, je suppose. Tout ce qui est stockage, transport, la préparation, l'assistance de course.
Voilà, exactement. C'est de la course. Alors, c'est pas de la course, du coup, comme on le fait dans le moderne, j'ai envie de dire, mais c'est de la course historique avec des contraintes différentes, mais des autos extraordinaires. Tu vois, on est une Aston Martin GT1 avec laquelle j'ai pu être champion du monde en 2011. Voilà, c'est des autos qui nous ont tous fait rêver avec un V12 au bruit incroyablement. Et voilà, donc je suis comme un enfant de revoir ces voitures et de pouvoir y remettre une patte et de les refaire vivre et de les faire courir dans des championnats aujourd'hui qui ont le vent en poupe parce que voilà, on a envie de revoir ces voitures avec ces catégories.
Ouais, c'est sûr, c'est certain. Est-ce une tendance d'ailleurs, est-ce une tendance forte aujourd'hui chez les pilotes amateurs ou gentleman drivers?
Alors c'est une tendance forte chez les gentlemen qui ont justement connu cette époque, qui s'identifient plus dans les championnats modernes parce que ça va beaucoup trop vite, parce que c'est très contraignant en préparation, parce que voilà, donc ces autos leur manquent, l'ambiance est différente, ils font revivre un peu les équipes et les voitures avec ces autos-là. Donc voilà, c'est une nouvelle philosophie qui arrive avec le vent en poupe et voilà, on est content de voir ça.
Ouais. Et est-ce que vous avez sélectionné une certaine catégorie de voitures justement à vous occuper ou vous vous occupez aussi bien de GT, de prototypes, de voitures historiques, pourquoi pas de Formule 1?
Non, on ne sait pas sélectionner de voitures. Là, on a des GT, on a des protos, ouais. On a quelques monoplaces. Voilà, on n'a pas catégorisé le truc du tout.
Hein. D'accord.
On s'intéresse à tout, tout nous plaît, donc c'est chouette.
Ouais. Et quel est le ressenti des clients? Parce que on leur offre un service, c'est un service quelque part qu'on offre à la voiture du client.
Oui, c'est un service, surtout on leur offre surtout un bagage technique avec la possibilité de refaire rouler ces voitures qui étaient des caisses très pointues à l'époque. Où tout était sur mesure et avec des pièces qui étaient faites en petite série. Donc aujourd'hui, on a dû investir dans de l'impression 3D, dans des tours, ouais. Dans des fraiseuses, des choses comme ça pour refabriquer. Donc non, on leur offre ça et on leur offre surtout la possibilité de refaire vivre ces voitures. Et je te promets, enfin, c'est incroyable. L'ambiance est incroyable. Et tu vois, on a fait le prologue du Légende of Le Mans la semaine dernière. On y va donc avec la GTE, et à côté t'as deux 908, t'as deux 908 LMP1 qui ont gagné le Mans. Les mecs qui démarrent ça, t'as toute une procédure de chauffe pour mettre le moteur en route. T'avais une P2 RS Spider Porsche qui était une voiture lunaire, tu vois. Enfin, j'ai l'impression de faire un bond de 15 ans en arrière, et c'était des voitures magiques aujourd'hui.
Voilà. Ah non, mais complètement, complètement.
Donc c'est non, c'est vraiment chouette.
Et je suis sûr que même toi qui baigne dans cela, toujours t'es émerveillé parce que t'es un passionné avant tout.
Oui, clairement. En fait, justement, c'est des championnats où déjà le sport auto, c'est quand même un milieu de passionné, mais là, l'historique, c'est que des gens qui ont vécu le truc, ouais. Des gens qui sont passionnés, qui sont mélancoliques de ces époques-là. C'est extraordinaire.
Vraiment. Ouais, complètement. D'ailleurs, aujourd'hui, est-ce qu'un team comme le vôtre doit aussi être une entreprise de service pour survivre? Parce que tu le dis, là par exemple, dans l'activité que vous faites, bon, bah, tu es obligé quand même de t'adapter à certaines choses en termes de service.
On reste une entreprise, et une entreprise doit se devoir d'être innovante, d'aller de l'avant, trouver des solutions, trouver du business. On fournit un service, on fournit des compétences, on fournit des moyens humains.
D'ailleurs, Pierre, si tu as un petit secret, comment vous arrivez à trouver l'équilibre, si je puis dire, entre performance sportive et modèle économique?
Bah, c'est l'équation constante. Hein. C'est le... J'ai envie de dire, le vice de notre métier, c'est de vouloir toujours plus. Toujours plus de performance, toujours plus de moyens techniques. Donc voilà, il faut savoir situer assez tôt dans la saison pour trouver l'équilibre tout au long de l'année et faire que t'es un système économique qui te permet d'avoir un niveau de performance suffisant. Voilà.
Ouais. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton rôle de team manager?
Alors, moi, mon truc, ça reste la technique, ça restera toujours la technique. Gérer des hommes et gérer l'humain, la logistique, personne ne m'a l'appris, tu vois, c'est un truc qui est venu un peu sur le tas et où tu es obligé de faire avec. Mais tu fais
très bien, vraisemblablement.
Écoute, ça, je le fais en tout cas. si le jour où mon rôle ne me permettra plus de régler des caisses et de regarder une voiture au bord de la piste et dire ce qui va pas, ben, dans ce cas-là, je changerai peut-être de métier. Ouais. Mais voilà, je reste.
C'est pas de mal à veille.
Hein. Ouais, écoute, on sait pas. Mais voilà, mon truc, c'est la technique. Et tant qu'on me laissera régler une caisse, ça ira, je pense.
Ouais. Quel est le moment, tiens, le plus intense pour toi pendant un week-end de course?
Le moment le plus intense, c'est quand t'as le feu qui passe au vert et que la course start, ou que t'es en qualif et que tu veux faire la pole. Mais voilà, j'ai envie de dire, nos week-ends de course, ils sont à 200 à l'heure du mercredi jusqu'au dimanche soir. Donc après, oui, c'est les montagnes russes du stress jusqu'au départ. Et puis une fois que c'est lancé, écoute, la course fait son job. Mais voilà, faut pas être cardiaque.
Si tu pouvais, alors je pense que moi j'ai la réponse, mais on sait jamais. Si tu pouvais emmener l'équipe dans n'importe quelle grande course mondiale, laquelle serait-ce?
Écoute, quand t'as fait Le Mans, t'es déjà pas mal. Après, écoute, Daytona est à vivre aussi. Les 24 heures de Spa aujourd'hui, pour moi, ça reste une course de GT. C'est la course de GT. Parce que Le Mans, t'as pas que des GT, t'as des protos et tout, mais les 24 heures de Spa, c'est la plus grosse course de GT au monde. Ouais. Donc quand t'as fait Le Mans, Spa et Daytona.
D'accord. Le Nürb?
Ouais, le Nürb. Bon, c'est une philosophie complètement différente, mais oui, non, le Nürb aussi, à voir au moins une fois, clairement. Ouais. Le 24 du Nord.
Ouais. Pour les auditeurs de Ça Roule, où pourra-t-on suivre le code Racing Development cette saison?
Vous pouvez le suivre sur nos réseaux sociaux et après le FSHGT4 passe sur les chaînes YouTube en live. Il y a des récaps l'équipe, Eurosport.
Alors d'ailleurs, dans le teaser de l'émission Ça Roule, je mettrai tous les liens descriptifs pour que vous puissiez donc suivre le code Racing Développement de cette saison. Eh bien, chers auditeurs, comme je le dis toujours, le temps qui nous était imparti est parti. C'est déjà la fin de cette interview exclusive dans Ça Roule. Un grand merci à Pierre Combi, team manager de Code Racing Development, d'être venu nous parler de cette saison 2026 qui s'annonce passionnante entre le championnat de France FFSA GT avec l'Alpine A110 GT4, je le rappelle. Le programme en Michelin, Le Mans Cup avec l'Aston Martin Vantage GT3 Evo. Et puis à venir, eh bien, les autres aventures qui attendent donc le Code Racing Management. Ça roule, donc bien, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis quant à moi à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Ça Roule. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et une très bonne route.